Ésaïe chapitre 60, et nous lirons le verset premier. En fait, c'est tout le chapitre 60 qui nous intéresse, et on y reviendra tout au long de cette méditation. Ésaïe chapitre 60 et le verset premier, mais je voudrais que l'on prenne ces quelques mots d'autres versets. Je l'espère, nous parlerons dans ce chapitre, mais je voudrais qu'on prenne ce premier verset comme une parole de Dieu, une parole inspirée de Dieu, une parole pour l'Église, une parole pour vous. Ésaïe 60, verset 1er. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Amen. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. On ne peut pas sortir ce texte, ce chapitre notamment 60 d'Ésaïe, on ne peut pas le déconnecter d'avec la naissance de Jésus, parce qu'il y a des points communs. Lorsque Jésus a été annoncé, lorsque Jésus est venu au monde, sur notre terre, dans notre monde, lorsque les anges ont annoncé sa venue, il y a une parole prophétique qui est revenue d'Ésaïe, et notamment des passages qui se trouvent dans ce chapitre 60, mais dans d'autres textes également, dans ces chapitres environnants, le chapitre 60. Et c'est ainsi que, puisqu'on est à la période de Noël, et que dans deux jours et demain soir, le monde célébrera Noël dans une grande partie, eh bien nous voulons célébrer, nous souvenir ce que Jésus a fait, mais nous rappeler également que la venue de Jésus sur la terre n'était pas une fin en soi, c'était juste une étape. C'est-à-dire qu'il a fallu que Jésus vienne pour racheter nos âmes, sinon nous étions perdus, et l'enfer nous était tristement destiné, on n'avait pas le choix, on ne s'en serait pas sorti. Alors Jésus est venu, et je voudrais qu'on lise ensemble dans l'évangile de Matthieu ce qu'il est dit le concernant. Matthieu chapitre 2, et verset 1er, vous verrez, il y aura un écho dans ce chapitre 60 d'Ésaïe. Mais là, nous lisons Matthieu chapitre 2, verset 1er. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa d'eux d'où devait naître le Christ. Et ils lui dirent, « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Chapitre 4, verset 12. Chapitre 4, verset 12. Jésus ayant appris que Jean-Baptiste avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Le peuple de Zabulon, de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, de la Galilée des Gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Je vous rappelle ce qui est à l'écran. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. On va dans Ésaïe, puisqu'il est fait mention d'Ésaïe précisément, chapitre 8, comme ça au moins vous verrez d'où est sorti ce texte, chapitre 8 d'Ésaïe et verset 23. Ésaïe chapitre 8, verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Et un peu plus loin, verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. » Jésus est vivant, Jésus est venu dans le monde, vous l'avez compris, pour inaugurer une nouvelle période, on va l'appeler comme cela, une nouvelle ère, celle de la grâce. Et l'ère de la grâce précède un autre moment particulier dont la Bible parle, c'est ce qui s'appelle le millénium, 1000 ans de paix sur la terre. Et ceci étant, ce millénium également, c'est le commencement du rétablissement de toutes choses dont l'apôtre Pierre parlait dans sa première prédication, chapitre 3, « Repentez-vous, convertissez-vous, et des temps de rafraîchissement viendront sur vous jusqu'au moment où Dieu rétablira toutes choses. » Donc c'est important pour nous de réaliser dans le fond que les signes qui se sont accomplis du temps de Jésus ne sont pas venus au hasard. Ces mages qui sont venus. Au fait, vous connaissez le nom de ces mages ? Ça s'appelle comment ? Melchior, Balthazar ? Ah, on ne sait pas. Hein. Certains disent, oui, je les connais, c'est leur nom. Vous y étiez, vous, pour connaître leur nom ? Non, on ne connaît pas leur nom. Mais la tradition rapportait qu'ils s'appelaient comme ça. Donc, vous voyez, quelquefois, on connaît plus, je vais dire, l'accessoire que l'essentiel. Hein. En fait, ces gens, quand ils sont venus de loin, ayant observé un petit peu le ciel, les étoiles, ils ont été guidés par cette fameuse étoile. Quand ils viennent, ils ne viennent pas les mains vides, vous avez remarqué ? Ils viennent avec de l'or, ils viennent avec de l'encens, ils viennent avec de la myrrhe, ils viennent adorer un roi. Tous ces présents qui étaient offerts au roi, représentaient l'onction, tout ce qui était apporté à des rois. Et évidemment, c'est quand même quelque chose de pas innocent, mais c'est quelque chose qui interpelle quand même. Mettez-vous à la place de Marie, mettez-vous à la place de Joseph, de ceux qui étaient dans le coin. D'ailleurs, même Hérode en a été troublé, puisqu'il va dire un roi, se peut-il qu'un roi naisse ? Et après s'être informé auprès des religieux qui, eux, connaissaient bien les textes, ils ne se sont pas trompés. Hein. Ils ont dit, c'est à Bethléem qu'il naîtra, c'est là qu'il naîtra. Et même si pendant longtemps, on a dit que Jésus était Jésus de Nazareth, parce qu'il a grandi à Nazareth, il est quand même né à Bethléem pour que la prophétie s'accomplisse. Et là encore, hasard du calendrier, ou en tous les cas, des circonstances, diront certains, si cet enfant est né à Bethléem, c'est parce qu'il a fallu aller se faire recenser dans son lieu d'appartenance, et c'est ainsi qu'ils ont pris la route. Mais ils sont retournés vivre dans le nord, à Nazareth, là où ils avaient l'habitude d'habiter. Donc on voit bien qu'il y a des choses étonnantes qui se sont produites à la venue de Jésus, des choses surprenantes. Et lorsque Jésus reviendra, parce qu'il est venu, mais lorsqu'il reviendra, alors il instaurera lui-même cette glorieuse période du fameux millénium. Et on est dans Ésaïe 60. On retrouve Ésaïe 60 à ce moment-là. Et quelques caractéristiques, me semble-t-il, rappellent la mission également et le sens de l'Église. Parce que tout Ésaïe 60 est centré sur Israël. Ça ne nous concerne pas directement, puisque c'est au-delà. L'Église est déjà enlevée au ciel, l'Église n'est plus là. L'Église règne avec Christ, elle est là dans le ciel pour adorer et célébrer son Rédempteur et son Dieu. Mais n'empêche que sur la terre, un mouvement va se faire et quelque chose va revenir vers Israël. Israël est loin de Dieu aujourd'hui, Israël est loin de son Messie, très très loin de son Messie. Mais dans Ésaïe 60 et dans d'autres textes, on se rend compte qu'Israël deviendra la lumière sur la terre, si vous voulez. C'est d'Israël que partira la bonne nouvelle du salut. C'est les peuples qui viendront vers Israël, qui viendront célébrer le Dieu d'Israël. Et chose étonnante, et on le voit dans ce chapitre 60, on reviendra encore avec de l'or, on reviendra encore avec de l'argent pour apporter cela au Dieu d'Israël, non pas à Israël en soi, mais au Dieu que célèbre Israël. Et c'est là que je trouve le point commun entre la naissance de Jésus, quand il viendra pour préparer les choses et annoncer les choses à venir, l'ombre des choses à venir, et quand tout cela s'accomplira d'une manière parfaite, il y a quelque chose de prophétique, me semble-t-il, qui doit nous inspirer, qui doit inspirer l'Église aujourd'hui. Et quand Ésaïe prophétise sur Israël, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité des peuples, mais sur toi l'Éternel se lève et sur toi sa gloire apparaît. » Je veux croire qu'il y a une parole pour l'Église aujourd'hui, pas simplement pour Israël dans le futur, mais déjà pour nous l'Église. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en ce temps-là, plus tard, ça reviendra à Israël la charge de parler de Dieu. Mais aujourd'hui, ça nous revient à nous l'Église de Jésus-Christ, d'annoncer le salut, d'annoncer la grâce, de parler de Dieu et de faire connaître ce Rédempteur extraordinaire. Alors, j'en reviens à ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé à la naissance de Jésus. Première image, on voit Jésus qui a été chanté par les anges dans le ciel. Il nous est dit que quand les bergers ont vu cette apparition, cette lumière, et qu'on leur a annoncé la venue du Messie, ils ont transpiré, ils ont tremblé de peur, et tout d'un coup, il y a une chorale céleste qui s'est unie à l'annonce de l'ange, chose extraordinaire. Ça a été attesté par les bergers, ils ont été vers l'endroit où Jésus est né, et ils ont annoncé les choses. On a vu une lumière, on nous a parlé, un ange nous a parlé, cet enfant sera particulier. Tout cela a été scellé par les mages et par leurs cadeaux, on l'a vu. Et je crois qu'aujourd'hui, cette naissance de Jésus doit être célébrée par une Église qui est debout, une Église qui est vivante, une Église qui est rayonnante, qui est inspirée, qui est paisible et qui est également joyeuse. Alors on va voir, au travers de ce chapitre 60, qu'est-ce que Dieu peut nous dire, comment il peut nous encourager face aux ténèbres, avouons-le, qui s'épaississent. Vous savez quoi ? J'ai vu à l'actualité ce matin. Vous savez, quelqu'un disait un jour que le monde entier scrute la France. Moi, je trouve ça un peu vaniteux quand même. Hein. Genre, on serait les plus forts, les plus grands. Mais à l'évidence, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans l'histoire qui ont malheureusement commencé chez nous. Les révolutions, par exemple. Parce que nous, les rois, quand on n'en veut plus, on leur coupe la tête, hein. En Angleterre, ils font ça beaucoup plus poliment. Mais c'est le caractère, certainement, français qui veut cela. Et le monde entier scrute la France. Ben, vous savez quoi ? J'en revenais pas. Le mouvement des Gilets jaunes, ça essaime dans le monde entier. Même à Taïwan. Dans le monde entier. Alors, ce n'est pas pour les mêmes revendications. Mais qui l'eût cru il y a un mois et demi, quand même ? Et franchement, ben, ça fait peur. Voyez, parce que ce n'est pas des mouvements paisibles, ce n'est pas des réactions normales. Il y a quelque chose qui dépasse finalement la simple colère, qui celle-ci, évidemment, tout le monde la comprend, tout le monde est en difficulté. Au moins 99% des gens ou 90% des gens souffrent et ont de la peine, ont des difficultés. Évidemment, il y a quelque chose de réel derrière tout cela, mais ça peut prendre une ampleur qui peut aller bien au-delà de ce qu'on imagine. Alors, on est dans un monde où les ténèbres s'épaississent et ça plonge de plus en plus les peuples dans la nuit. C'est exactement ce qu'Ésaïe dit. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, c'est la prophétie d'Ésaïe. Et c'est dit sur Israël, et ça pourrait être dit sur l'Église ce matin, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité des peuples, mais sur l'Église, l'Éternel se lève. Amen. Sur l'Église, l'Éternel se lève. Et sur l'Église, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Se peut-il que, face à toutes les difficultés, l'Église se tienne bien droite et bien debout. Alors, on va voir en trois points ce que l'Église doit être. Ce que l'Église doit être. Tout d'abord, une Église glorieuse. Je m'explique. Une Église glorieuse. Le prophète a cette vision de la gloire finale, si vous voulez, de Jérusalem, et la bénédiction déborde du cadre d'Israël. C'est pour les nations tout entières. On lit ces quelques versets, je pense que vous avez gardé votre Bible ouverte. Ésaïe 60, du verset 1 au verset 3, je vous l'ai cité. Et maintenant, on lit versets 19 à 22. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Dites-moi, ça ne vous rappelle pas ? Plus de nuit, lumière éternelle. Ça ne vous rappelle pas quelque chose dans le Nouveau Testament, ça ? Apocalypse, non ? Apocalypse 21, 22. Ça rappelle cela, hein ? Vous les relirez si vous voulez ces chapitres. Mais on comprend que ça déborde du cadre seul du peuple d'Israël et ça concerne le monde entier. Jérusalem devient... à ce moment-là, un centre spirituel, le centre spirituel du monde. Les nations accourront pour entendre parler de la vérité à Jérusalem, en Israël, l'endroit, finalement, où la gloire de Dieu va se manifester. Ça a été toujours le projet de Dieu, depuis toujours, évidemment, de manifester sa gloire, et il a choisi un homme, Abraham, il en a fait une nation, Israël, il en a fait un peuple pour faire la différence avec les autres peuples de la terre, et on sait très bien que cette parenthèse qui est une bénédiction pour les autres nations, nous, c'est-à-dire les autres peuples, cette parenthèse elle s'achèvera et à nouveau, quelque chose reviendra vers Israël. Ce qui saisit Ésaïe, dans tout ce chapitre 60, c'est incroyable, c'est la gloire, la gloire. Regardez avec moi plusieurs versets. Verset 1er, « La gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Un peu plus loin, toujours, verset 2, « Sur toi, sa gloire apparaît. » Verset 7, ils monteront sur mon autel et me seront agréables et je glorifierai la maison de ma gloire. Verset 9, à cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Verset 13, la gloire du Liban viendra chez toi et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Verset 19, je viens de vous le citer. « Ton Dieu sera ta gloire. » Et enfin, verset 21, « Il n'y aura, l'Éternel sera ta lumière à toujours. Il n'y aura plus que des justes dans le pays. Ils posséderont le pays pour servir à ma gloire. » Ça, c'est la chose qui surprend. Ésaïe, gloire, 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 gloire. J'en viens à ce que vous avez à l'écran. Jean. Évangile de Jean, chapitre 17, versets 22 à 24, c'est Jésus qui parle. Il s'adresse à l'Église. Et c'est la prière qu'il formule à Dieu en parlant de l'Église. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Je leur ai donné ta gloire, et je veux qu'ils voient ma gloire. N'est-il pas possible aujourd'hui, frères et sœurs, que le monde puisse voir la gloire de Dieu dans l'Église ? C'est pas possible, ça ? Ça devrait l'être, hein ? Ça doit l'être. Ça l'est. Ah oh, zut, je pensais que vous alliez dire amen. Non. Ça l'est, n'est-ce pas ? Eh oui, ça l'est. Salé. Salé, salé. Que votre parole soit toujours assaisonnée de sel. Est-ce qu'elle n'a pas été un peu trop salée quelquefois, notre parole, qui fait que ce n'est pas la gloire de Dieu qui en est ressortie, hein. C'est la honte des hommes, c'est ce qu'on aurait dû faire qu'on n'a pas fait. Le plus difficile, finalement, j'en reste persuadé, c'est de quitter les yeux du miroir dans lequel nous nous regardons constamment. Ça, c'est le plus difficile. Parce que nous regardons notre vie dans ce miroir en disant « Où est Dieu? Que fait Dieu? Pourquoi il n'agit pas? Pourquoi j'en suis encore là? Comment ça se fait que c'est long? Comment ça se fait que je ne m'en sors pas ?» Alors que ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder où est la gloire de Dieu dans tout ça. Où est la gloire de Dieu dans tout ça? C'est ça la réalité. Et finalement, quand on est capable, comme l'apôtre Paul, comme Ésaïe, pardon, de réaliser ce que signifie la gloire de Dieu, on dira, comme Paul, Romains chapitre 8 et verset 18, vous connaissez certainement ce passage, oui, certainement, Romains chapitre 8, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir. » La gloire vient et vous entrerez dans cette vie glorieuse. Alors, s'il y a des souffrances le temps présent, eh bien, considérons cela comme un effet de la gloire de Dieu, un effet de la grâce de Dieu, puisque nous sommes debout malgré tout et nous tenons debout malgré ces choses-là. L'apôtre Pierre dira, dans la même veine, quelque chose au chapitre 5 et au verset 10, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. » Aïe, pourquoi il a écrit ça? Moi, je l'efface. Hein. Je l'efface. Et si je l'efface, ça fait le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Et tout le monde dit Amen. Sauf qu'il y a des temps d'épreuve au milieu. Et vous savez quoi? C'est souvent les temps d'épreuve qui nous affermissent. C'est souvent les temps d'épreuve qui nous façonnent. Ce n'est pas les temps où tout va bien. Hein. Ce n'est pas les temps où tout va bien. Hein. C'est quand ça ne va pas. Quand ça marche au boulot, on ne se pose jamais de questions. Mais quand ça ne marche plus, on se dit « qu'est-ce qui se passe là ?» Et on réfléchit. Ouais. Il semblerait, j'ai travaillé dans le domaine de l'imprimerie, et il y a souvent des accidents avec les machines rotatives, c'est des rouleaux qui tournent à grande vitesse. Et souvent, les accidents, c'est... une fille avec un bijou quelconque ou une queue de cheval qui passe, qui ne fait pas attention, et ça part dans les rouleaux. Mon propre frère, d'ailleurs, a passé une main dans une machine comme ça. Et la machine s'est enrayée, heureusement. Et il n'a pas eu trop de dégâts, mais bon, on voit la marque encore aujourd'hui. Et vous savez quoi? On nous a appris à l'école, quand on nettoie les machines avec des chiffons, il peut y avoir un bout de chiffon qui traîne, il faut bien l'enrouler, parce que si le bout de chiffon traîne, vous ne le lâcherez pas, hein, votre main partira avec, c'est le réflexe. Hein. Et il nous disait souvent, méfiez-vous de l'habitude, méfiez-vous de l'habitude. Quand vous faites par automatisme, c'est là que l'accident vient. Toujours, toujours être vigilant. Et il me semble que ces épreuves, ces difficultés sont là pour nous tenir toujours en alerte, pour que la gloire de Dieu puisse se voir. Amen. Pour que la gloire de Dieu puisse se voir. Alors, frères et sœurs, je prie pour que l'Église, en 2019, soit glorieuse. L'Église de Gap, l'Église de Vennes, l'Église de Barcelos, l'Église de Sisteron, l'Église de Digne, de Briançon, d'Embrun, bref, du monde entier. Qu'elle soit glorieuse, cette Église. Et ça passera par chacun d'entre nous, ça passera par vous, ça passera par moi. Ésaïe a été marqué. Oui, la chose la plus importante, c'était la gloire. Eh bien, que Dieu bénisse nos cœurs et nos vies, et que nous servions à la louange de sa gloire, à la louange de sa gloire, que nous puissions le servir ainsi. Deuxième point, une église conquérante, et tout le monde dit Amen, sans que je le demande. Du verset 4 au verset 9, Ésaïe 60, du verset 4 au verset 9. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, hein, de dromadaires, de madians et d'épha. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens. Ils publieront les louanges de l'Éternel, comme les bergers l'ont fait, comme les mages l'ont fait. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nébajoth seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier ? Car les îles espèrent en moi. Les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Le retour à Dieu des Juifs, leur conversion, c'est ce qui est dit dans ce verset 4. Peut-on faire un parallèle avec ce qu'il est dit au chapitre 49 et au verset 18, toujours d'Ésaïe ? Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent et ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme une parure. Tu t'en ceindras comme une fiancée. Et au chapitre 11, toujours d'Ésaïe, versets 11 et 12, il était dit : Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros, et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar, à Hamath et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda. C'est un temps de réveil à ce moment-là pour la nation juive, vraiment un temps de réveil qui devient moteur de la conversion des autres nations. Ça devient moteur pour les autres nations. Je fais un parallèle avec l'Église, n'est-ce pas ? Parce que l'Église, aujourd'hui, c'est l'instrument de Dieu pour le salut des perdus. C'est l'instrument de Dieu pour le salut des perdus. Et peut-on dire que quand l'Église brille, le monde est éclairé ? Est-ce qu'on peut dire ça ? Quand l'Église brûle par l'action du Saint-Esprit, je crois que le monde est secoué, n'est-ce pas ? Et il me semble que si l'Église est bien réveillée, les peuples se tourneront vers Christ. Alors que Dieu nous aide, là encore, et que les peuples puissent se rapprocher, se rassembler, s'unir certainement pour célébrer l'Éternel. Je me dis qu'à Gap, on est peu nombreux. Hein. On pourrait être 10 fois plus, largement. Beaucoup plus d'habitants que ça à Gap. On pourrait être 10 fois plus, 100 fois plus. 10 fois plus, ça ferait 2000. 100 fois plus, ça ferait 20 000. Ce serait encore qu'un peu moins de la moitié de la ville de Gap. C'est rien. Hein. Mais il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui. D'ailleurs, vous l'avez certainement constaté. Il y a quelque chose qui a fait grand bruit ces derniers temps, qui a fait bouger tout un tas de gens à travers le monde, c'est le fameux pacte mondial pour les migrations. Pacte mondial pour la migration, les migrations. Et là, on se rend compte à quel point les gens ont peur. Chacun se renferme, chacun a peur. Submersion, envahissement, etc., etc. Mais dites, le monde va mal. Est-ce le temps de se diviser ? Le monde va mal ? Certains, c'est curieux, des fois, dans les églises, on a des drôles de conversations, des fois, hein, dans les églises. C'est du genre, il fait trop chaud, il fait trop froid. Parce que c'est très, très important. Tant qu'on n'est pas à 40 degrés dedans et moins 12 dedans, ça va quand même. Hein. Certains diront, les horaires des réunions, ça ne me plaît pas, hein, ça ne me convient pas. Hein. Est-ce que c'est vraiment important, franchement ? Ou alors, l'autre est passé, il ne m'a pas dit bonjour, ça m'agace, ça fait 2 fois qu'il fait ça. Est-ce que c'est vraiment important ? Est-ce que ça, c'est... Et puis, oh là là, vous ne vous rendez pas compte, avec tous ces gens qui traînent dans les rues, ils sentent mauvais, etc. Ben oui, ben on pourrait peut-être les faire venir à l'église. Ouais, je ne sais pas, hein, ils ont des chiens, tout ça, ça va salir, ça va... Est-ce que on réalise tout ce qu'on dit, là ? Le monde craque, hein. Regardez, le monde craque. Face à des problèmes humanitaires, on enlève les pavillons à tous les bateaux qui veulent aller secourir des gens en mer. On les traite même de faire de la traite, de l'esclavage. Enfin bref, on retourne les problèmes, on les renverse complètement. Eh bien moi, je crois que l'Église a une part dans tout ça, parce que l'Église doit être conquérante. Et le monde avance avec toutes ces idées qui divisent les peuples, hein, qui sépare les gens, qui met de la haine dans le cœur des gens. Je crois que l'Église doit être conquérante pour dire non, nous on veut que l'amour de Dieu se manifeste, on veut que l'amour de Dieu se voit, et on veut être un instrument qui manifeste cet amour-là. Ça, c'est quelque chose, me semble-t-il, d'important. Et je crois qu'il faut réagir, et non pas comme beaucoup de gens réagissent, mais d'ailleurs, Ça a été un débat il y a fort longtemps dans des églises. Les gens disaient, il faut s'unir. Si on est unis, il y aura le réveil. Moi, je suis assez circonspect par rapport à cela. Parce que moi, je crois plutôt que quand il y a réveil, il y a unité. C'est pas pareil. Hein. C'est quand Dieu souffle de son esprit que les divisions s'en vont. C'est pas le fait de dire, allez, on se met ensemble, que tout d'un coup, les choses vont spontanément changer. Après, avoir des divisions, c'est jamais bon. Hein. C'est certainement condamnable, c'est certainement pas louable. Il n'y a pas de raison, évidemment, mais je pense que des fois, on met les choses à l'envers. Dieu, ça ne sert à rien d'attendre que Dieu vienne nous réveiller. Réveille-toi toi-même. Si tu es sauvé, si tu es enfant de Dieu, si tu es chrétien, secoue-toi, bouge-toi, parce qu'il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, l'Écriture nous montre bien qu'il y a des tas de choses que l'on doit faire, et puis après, Dieu met son sceau, et c'est ce qui fait toute la différence, bien évidemment, c'est quand Dieu met sa marque là-dessus. Alors, je répète, quand l'Église brille, le monde est éclairé, quand elle brûle, le monde est secoué pour son bien, et quand elle est réveillée, le monde se tourne vers Dieu, et plaise à Dieu qu'il en soit ainsi. J'en viens au troisième point, une Église qui brille, finalement, qui est conquérante parce qu'elle ne veut pas laisser le monde avancer, mais elle veut avancer elle aussi. À l'inverse, c'est contrecarré, c'est mauvais plan. Là, du verset 10 au verset 18, on peut le lire encore si vous voulez. Ésaïe 60, verset 10. « Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs, car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes. » Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'orme, le buis, tous ensemble pour orner le lieu de mon sanctuaire. Et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel. Ils t'appelleront ville de l'Éternel. Sion du Saint d'Israël, au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie, de génération en génération, tu suceras le lait des nations. Tu suceras la mamelle des rois et tu sauras que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le Puissant de Jacob. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain. Et au lieu des pierres, du fer, je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages, de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut, et à tes portes, celui de gloire. Quel beau projet, n'est-ce pas ? Quel beau projet. Alors que Dieu fasse que dans l'Église, ceux qui entrent trouvent la paix et la joie. C'est ce qui ressort de ce thème, la paix et joie. La paix et la joie, la justice et l'unité ont donné raison à Dieu, et la paix et la joie se manifestent. Ceux qui ont détruit la ville viendront la rebâtir. C'est assez incroyable cela, c'est eux qui viendront, les oppresseurs sont morts d'ailleurs, et il y a quelque chose d'assez incroyable, tous vont déclarer, on l'a lu ensemble, verset 14, « Ils t'appelleront ville de l'Éternel », c'est quasiment la même expression qu'à la fin d'Ézéchiel, dernier chapitre, chapitre 35, chapitre 48, verset 35, où il est dit, ce sont les derniers mots, « L'Éternel est ici ». L'Éternel est ici. La ville de l'Éternel, la ville du Saint d'Israël, l'Éternel est ici. Moi, j'aimerais bien, encore, que quand les gens entrent dans l'Église, la première chose qui leur saute aux yeux et qu'ils diront, qu'ils confesseront, c'est « L'Éternel est ici ». Non ? Ce serait bien, hein ? Ouais. C'est ça, la volonté de Dieu. Hein ? Quand deux ou trois s'assemblent, je suis au milieu d'eux. On connaît le texte. Alors finalement, on a élevé le niveau, hein, puisque là, au lieu de l'airain, du fer, des choses comme ça, c'est plutôt de l'or et de l'argent. Ça va bien au-delà, et d'ailleurs, or, argent, fait penser à paix et justice, évidemment. La conclusion de tout cela, j'en reviens, et je voudrais que ce soit ainsi pour chacun d'entre nous comme une parole prophétique. Ésaïe 60, verset 1, verset 20, verset 22. La gloire de l'Éternel se lève sur toi, mon frère, ma sœur. En 2019, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Les jours de ton deuil seront passés. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Que Dieu manifeste sa gloire. Amen. Amen. Jésus est venu sur la terre. Quand Jésus est venu, on l'a adoré. On lui a apporté de l'or, de l'argent. On lui a apporté de l'encens, de la myrrhe. On a dit tout un tas de choses extraordinaires. Dans le temple, Siméon a célébré cet enfant qui venait de naître. Tu laisses aller ton serviteur en paix. Mes yeux ont vu ton salut. Anne, prophétesse, dans le temple, elle aussi, très âgée, quittait plus le temple, elle aussi. Elle a célébré Dieu, elle a rendu grâce à Dieu. Il s'est passé des choses quand Jésus est venu. Et je voudrais qu'il se passe encore beaucoup de choses avant que Jésus ne revienne. Parce que quand il reviendra, il s'en passera des plus belles encore. Mais en attendant, on est là pour dire au monde et à ceux qui nous entourent, Jésus est venu. Il sauve encore aujourd'hui. Il délivre, il pardonne, il manifeste sa gloire. Alors, si la lumière arrive et si elle vient et suit sur l'Église, sa gloire apparaît. Plaise à Dieu que cette Église dans laquelle nous nous trouvons soit glorieuse, conquérante, lumineuse, brillante, qu'elle soit debout et qu'elle soit joyeuse et paisible et qu'autour de nous, il se passe de belles choses. Amen. En 2019, on ne veut pas 2, 3, 5, 10 baptêmes. On veut 100 baptêmes. On en veut 200. Mais pas qu'ici, partout, parce qu'il y a de la place. Le monde avance, les ténèbres avancent, mais le message de Christ est triomphant. C'est le seul qui est digne d'être confessé encore aujourd'hui. Gloire à Dieu. Se lève ensemble et on invoque son nom. Seigneur, nous voulons te remercier du fond de notre cœur d'être venu un jour. Nous voulons te remercier d'avoir accepté notre condition et d'avoir pris notre apparence, notre forme, d'être resté Dieu malgré tout et d'avoir tout accompli pour que nos péchés soient pardonnés. Nous te rendons grâce, Seigneur. Si notre vie a été renouvelée, changée, transformée, ça n'est pas que pour nous et je refuse de regarder dans ce miroir mon seul visage. Je cherche ta gloire, je veux voir ta gloire. Étends ta main, Seigneur, autour de nous et qu'il se fasse encore des prodiges et des miracles et que ton nom soit glorifié. Merci de ta bienveillance, merci de ta grâce, merci de ta bonté. Oh, que ton nom soit loué. Je te prie de bénir les familles que nous représentons, de bénir dans toutes les familles qui sont là ce matin, de bénir un cas, une situation qui est difficile, qui est malheureuse, qui est vraiment une situation de désespoir, de larmes, de souffrance, de blessures, d'échecs. Je prie pour une de ces nombreuses situations, pour qu'en 2019, la gloire de l'Éternel se lève et que le soleil vienne, que la lumière arrive, parce que tu es l'étoile du matin qui brille. Merci de le faire et d'apporter guérison, délivrance dans les jours qui viennent. À ton nom la gloire. Merci de nous raccompagner dans ta paix, de nous garder toujours dans ta paix et de nous donner envie d'être toujours plus saints, sanctifiés, toujours plus à l'écoute de ta voix, toujours plus emballés à marcher à ta suite. Que ton nom soit béni pour ta fidélité.